Alors ce matin, ça me fait un peu drôle de vous parler, vous me direz, ce n'est pas la première fois, mais pour moi c'est spécial. J'ai lu ma Bible, comme je fais d'habitude, et j'ai parcouru le livre des Nombres. C'est un livre vous aimez tous lire. Hein. Je vois Alain qui me dit, ah ouais, ça paraît pas passionnant du tout, hein. On voit des nombres et puis des décomptes de personnes. Mais je vous assure que ça m'a extrêmement parlé. D'habitude, je l'ai déjà lu et puis, bon, je le parcours, je me dis, c'est là, il y a une raison. Mais cette fois-ci, ça m'a parlé. Et je vais vous confesser que dans mes lectures, ça me faisait vraiment bizarre. Vous savez, hier, on a notre frère David Switzerland, excusez mon horrible accent anglais, hein, qui disait, il avait rappelé ce verset, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et il te le rendra. » Et en fait, quand je lis, je prie en même temps, je demande au Seigneur de me parler, de m'éclairer sur sa parole. On le sait, hein, on a besoin de la lumière du Saint-Esprit pour comprendre ce qu'on lit. Et si on n'a pas ça, ben on lit la Bible comme un livre standard, comme un livre historique, comme un livre qui nous donne des informations. Et on a vraiment besoin que le Seigneur soit assis à côté de nous, mais ça ne me paraît pas assez proche assis à côté de nous. C'est qu'il doit être assis en nous pour qu'on ait vraiment son inspiration divine pour recevoir ce qu'il veut nous dire dans sa parole. Et j'ai vécu des moments comme ça, où j'ai vraiment l'impression que j'étais en contact avec le Seigneur en lisant, et ça me faisait tout drôle, qu'il était là, en moi, tout près de moi, pour m'éclairer sur sa parole. Alors vous me direz peut-être, je vais vous parler de ce que j'ai l'impression de découvrir, peut-être que vous me direz, bah, même ça on le savait déjà, mais moi ça me fait drôle parce que j'ai l'impression de l'avoir redécouvert pour la première fois. Vous savez, ce matin encore, je disais à Isabelle, je lui déclarais mon amour, et que je lui disais, j'ai envie de me marier avec toi, pourtant on est déjà mariés, mais c'est comme si c'était la première fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, quand on revit les choses, on a l'impression que c'était comme la première fois. Et dans notre relation avec le Seigneur, ne trouvez pas que c'est pareil. On vit avec le Seigneur, on le connaît, on lit la Bible depuis des années. Et on a toujours l'impression de la redécouvrir. Ça ne vous fait pas le même effet? Et quand ça nous fait ça, ben on est émerveillé. On a l'impression que le Seigneur s'adresse à notre cœur et comme si c'était la première fois. Et on en tremble quelquefois. On se dit, le Seigneur me parle. Mais c'est tellement merveilleux quand le Seigneur se révèle à notre cœur. Même si on l'a déjà vécu, même si on relit encore ce qu'on a déjà lu plein de fois, ça nous fait tellement du bien quand le Seigneur s'adresse à notre cœur. Et il ouvre nos yeux sur des vérités de ce qu'il est. Et je remercie Lionel pour le chant, parce que sinon, j'aurais demandé à ce qu'on l'entonne avant. Merci pour ta parole. Je vais répéter ce début. Lumière donnée aux hommes qui nous fait connaître le cœur de Dieu. Et ce matin, on va se pencher sur le livre des Nombres. Alors, on ne va pas tout parcourir, hein, sur quelques aspects seulement. On va rester bien humble. On va parcourir quelques aspects de la nature de Dieu, quelques aspects qui nous sont révélés dans le livre des Nombres. C'est fou, hein? Ah oui, la parole de Dieu, elle nous révèle le cœur de Dieu. Est-ce que ça vous dit qu'on y aille dans ce petit voyage pour découvrir ensemble? Et vous allez être gentils avec moi, faire comme si vous l'entendiez pour la première fois. Parce que moi, c'est l'impression que ça m'a donné, que c'était comme si c'était la première fois que Dieu révélait ce qu'il était à mon cœur. Alors, on va Non, 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 faut que ça marche la technique. Hein. Voilà. On va lire dans Nombre, chapitre 1, verset 51. Ça va commencer au verset 48. Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de diapos. Je ne sais pas si je vais réussir à tout faire aujourd'hui. C'est possible en allant vite, mais j'aime pas aller vite. J'aime bien prendre le temps de dire les choses, d'asseoir les choses. Et si ce n'est pas fini, ben vous ne m'en voudrez pas. Il y aura une suite. L'Éternel parla à Moïse et dit: « Tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi, et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles. Ils en feront le service, et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront, et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle et du témoignage. » Moi, ce qui m'a marqué, j'ai fait exprès d'accentuer. Hein. Chacun dans son camp. Chacun près de sa bannière, selon leur division. C'est pour ça que le titre, j'ai mis « Dieu aime le désordre ». Non, hein. Dieu aime l'ordre. Dieu aime l'ordre. Ça transparaît, hein, c'est pas marqué, hein, mais on le comprend dans ses exigences. Vous savez, quand il y a des gens qui parlent et qu'on ne connaît pas, on va sentir ce qu'ils sont au travers de ce qu'ils vont dire. Vous êtes d'accord ? Et ça, on le retrouve dans la Bible, c'est marqué, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous écoutez quelqu'un parler, vous allez savoir ce qu'il a dans le ventre. Bon, sauf si c'est un hypocrite, mais tôt ou tard, ça va se révéler. Et Dieu, là, dans sa manière de donner les directives, il exprime ce qu'il aime. C'est son peuple, le peuple qu'il s'est acquis. C'est le peuple de son héritage, le peuple qu'il a choisi et qu'il aime. Et il veut donc que son peuple lui ressemble. Il veut que son peuple soit parfaitement ordonné. Et on ne va pas tout lire, parce que ce serait trop long, vous savez. J'ai fait des résumés et on dit souvent qu'un schéma parle mieux qu'un long discours. Alors j'ai fait un schéma. Vas-y. Voilà. Ça, c'est le camp d'Israël. Chacun dans son camp, chacun dans sa bannière, chacun selon ce qu'on vient de lire. Et un peu plus loin, on a Dieu qui demande à Moïse et à Aaron de dénombrer, de compter combien il y a d'enfants d'Israël. Vous imaginez le boulot, hein? Alors, ce qui est marrant, c'est que Dieu, il a demandé de compter selon leur nom. Alors, moi, je me suis demandé... c'est pas le bon truc. Ah oui, merci. Déjà, tout à l'heure, j'ai eu une frayeur. C'était les notes de la fois dernière. Je me dis, voilà, j'espère que je ne me suis pas emmêlé les pinceaux avant de partir, que je n'ai pas mis la mauvaise fiche. Voilà. Donc Dieu, il a demandé de compter selon les noms. Et ça veut dire que peut-être que c'était des registres, en fait. Hein. Tout, tous les noms, quand il y avait des naissances, ils l'écrivaient et ils ont dû compter tous les noms qui avaient été inscrits. Je ne sais pas trop, hein, je ne suis pas formé là-dessus, mais quand on lit, tu compteras d'après les noms. Et moi, je le comprends comme ça. Si vous avez une autre interprétation, il en existe peut-être, c'est l'idée que moi j'ai eue, mais toujours est-il que Moïse et Aaron ont dû compter tout le monde. Et voilà ce que ça donnait. On avait donc au centre, le tabernacle, au centre du camp. Et ça nous parle. Le tabernacle, c'était quelque part la maison, l'endroit où Dieu venait habiter au milieu de son peuple. Il était au centre. Ça nous explique implicitement que Dieu, il est au centre de notre vie. Il doit être au centre de notre vie. C'est l'ordre qu'il souhaite. Et autour, ben, y a nous, les familles, les tribus d'Israël. Alors on regarde, on a toutes les tribus. Alors on sait qu'il y avait combien de tribus ? 12. Alors quelquefois c'est 12, quelquefois c'est 13. Parce qu'en fait, il y a la tribu de Joseph, et je l'ai mis, bon, ça ne se voit pas trop, ben non, ça ne se voit pas là, sur celle-là. La tribu, on voit Manassé et Ephraïm, ce sont les deux garçons de Joseph. Et en fait, ils ont pris un peu la place de Joseph parce que Jacob les avait presque adoptés comme si c'était ses enfants. Hein. Mais il y avait 12 tribus. La tribu de Joseph, qui est en fait la tribu de Manassé et Ephraïm, et puis toutes les autres tribus qui étaient, ça correspond aux enfants de Jacob, hein, ça on le sait tous. Et ils ont été dénombrés, ils ont été comptés. Et on aurait pu lire hein, tous les dénombrements, mais ça paraît assez fastidieux à lire. Mais j'ai mis, voilà, donc au nord, c'est comment Dieu a voulu qu'il s'établisse autour du tabernacle. Dieu n'a pas dit, vous vous mettrez autour du tabernacle. Il a dit qui devait être au nord. Qui devait être au sud, qui devait être à l'est et qui devait être à l'ouest. Les choses étaient parfaitement dictées par Dieu parce qu'il est un Dieu d'ordre. Il aime que les choses soient disposées selon sa volonté. Et ça nous interpelle. Dans ma vie, est-ce que il y a de l'ordre. Dans ma manière de vivre, est-ce que ça reflète l'ordre ou est-ce que c'est le bazar partout? Si c'est le bazar partout, c'est pas à l'image de Dieu. Dieu aime l'ordre. Et si tu aimes l'ordre, c'est bien. Alors quelquefois on l'aime trop. On peut tomber dans l'extrême et puis être horrible parce que c'est pas assez ordonné comme on l'entend. Il y a un équilibre à trouver. Mais Dieu aime l'ordre. Et c'est normal. Chacun devait camper selon sa division, etc. Et donc on voit l'ordre que Dieu a voulu. Alors au nord, ben les trois tribus, parce qu'en plus, ils ont été comptés. Et le décompte a été rassemblé. Et donc 157 600 au nord, 186 400 à l'est, 151 450 au sud et 108 100 à l'ouest. Ça fait du monde, hein, tout ça. Comment ? Ah, en tout, tu as fait le total. Oui, le total, il est aussi marqué dans la Bible. Hein. Mais quand on voit tous ces décomptes, c'était précis, hein. Et le livre des nombres nous fait un état numérique de tout ça. Et si c'est précisé, c'est parce que ça sert à quelque chose. Et ça, voilà, c'était le camp d'Israël dans le désert. Est-ce qu'ils ont fait du camping, hein ? Et nous, on a fait du camping en famille quand on avait nos quatre enfants avec nous. Quand on partait en camping, c'était un exode et j'aimais tellement ce côté d'exode, de voyage, de sentir étranger sur la terre. Et quand on devait installer notre camp, ben, quelquefois c'était le bazar. Parce que quand les enfants sont petits, Ben ouais, ben ils font chacun leur truc à leur sauce et puis il faut monter la tente. Et c'était pas du camping en mobilhome, hein, c'était du camping sous tente en toile et il fallait monter la toile. Et puis on avait roulé toute la nuit, le matin, ah, c'était dur, tous les mauvais caractères qui sortaient, la fatigue, monter la tente sous un soleil de plomb parce qu'on faisait pas du camping là où il faisait froid. Hein. Et tout ça, mais le camp, le Israël, ils ont campé 40 ans dans le désert. D'avec, pas avec, pas à 6. Hein. Vous voyez combien ils étaient? Mais pour que ça fonctionne, pour que ce soit vivable, il y avait intérêt à ce que les choses soient ordonnées. Sinon, ils seraient morts. Ils n'auraient pas du tout survécu à 40 années dans le désert. C'est pas possible. N'importe quel peuple serait mort d'avoir vécu 40 ans dans le désert comme eux. Et c'est un miracle s'ils ont réussi à traverser tout ça. C'est parce que ils ont alors obéi aux ordres divins. Ça a été salutaire pour eux. C'est Dieu qui a été leur ligne de conduite, qui leur a donné les ordres de comment ils devaient se ranger, comment ils devaient se placer et comment, la diapo suivante, comment ils allaient se mettre à voyager. Parce que figurez-vous qu'ils ont fait du camping itinérant pendant 40 ans. Ils devaient bouger. Et donc, ici, on voit l'ordre fixé par Dieu. J'ai mis les numéros en rouge. Parce que quand ils devaient lever le camp, on verra après, hein, quand ils devaient lever le camp, c'était pas « Allez, on y va !» Et brrr, tout le monde se mettait en route parce qu'ils se seraient piétinés. Ils étaient trop nombreux. Il y avait un ordre à respecter. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. J'ai mis le numéro 1. Pour le côté est, parce que c'est eux qui devaient ouvrir la marche. Ensuite, le numéro 2, c'est eux qui devaient se placer derrière. Ensuite, numéro 3, la tribu de Lévi, les Lévites, qui devaient se mettre en marche. Ensuite, le numéro 4, et en dernier, le numéro 5. Et quand Dieu décidait qu'il devait lever le camp, il devait partir dans cet ordre-là, bien défini. D'ailleurs, on remarque qu'au centre, il y a le tabernacle. Et au centre de la marche, il y avait encore le tabernacle. Qu'il soit à l'arrêt, en campement ou en déplacement, Dieu était au centre. Même s'il était devant aussi, hein, parce que la nuée marchait devant. La flamme marchait devant, mais le tabernacle, il était au milieu. Dieu donne toutes les directives de comment il faut faire. Quand on s'arrête, comment on doit faire quand on se met en mouvement. Et vous savez, quand il se mettait en mouvement, on va le lire, il y avait le tabernacle. Vous savez, toutes les affaires personnelles, chacun devait les gérer quand il fallait partir. Mais le tabernacle, vous imaginez, il y avait le voile, le lieu très saint, le lieu saint. Pour déplacer tout ça, l'arche du témoignage qui contenait les tables, tous les ustensiles qui étaient saints, sacrés, on ne pouvait pas les déplacer comme d'autres choses personnelles des familles des Israéliens. Et on va regarder. Voici les fonctions des fils de Kehath dans la tente d'assignation. Elles concernent le lieu très saint. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement d'étoffe bleue. Puis ils placeront les barres de l'arche. Ils étendront un drap bleu sur la table des pains de proposition, et ils mettront dessus les plats, les coupes, les tasses et les calices pour les libations. Le pain y sera toujours. Ils étendront sur ces choses un drap de cramoisi, et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin. Puis ils placeront les barres de la table. Ils prendront un drap bleu, et ils couvriront le chandelier, ses lampes, ses mouchettes, ses vases à cendre et tous ces vases d'huile destinés à son service. Ils le mettront avec tous ses ustensiles dans une couverture de peau de dauphin, puis ils le placeront sur le brancard. Vous voyez, ils placeront sur le brancard. Avant ça, ils placeront les barres deux fois pour la table des pains de proposition et pour l'arche. Ils placeront les barres. En fait, personne n'avait le droit de toucher à ces choses saintes. Elles devaient être soigneusement, comme on vient de le lire, recouvertes, et pas par n'importe quoi. Dieu avait ses directives pour que tout soit parfaitement protégé. Il fallait déplacer des choses saintes. Et il fallait que les barres soient mises en place, parce qu'ensuite allaient arriver les porteurs, et les porteurs aller saisir les barres pour les transporter. Il n'allait pas toucher à tous les ustensiles, à tout ce qui était saint. Et il ne fallait surtout pas. Sinon, c'était au péril de leur vie. Comment se dire que Dieu se contente d'un à peu près quand on a pris connaissance de tout ça? Oui. En fait, tout était noté. Alors, on a les livres Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qu'on appelle le Pentateuque. Ce sont des livres qui ont été écrits par Moïse. D'ailleurs, en allemand, la Bible en allemand ne dit pas Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Elle dit Erste Mose, Zweite Mose, Dritte Mose. Donc, premier livre de Moïse, deuxième livre, cinquième livre de Moïse. En fait, tout a été écrit par Moïse. Donc, toutes les directives, tout ce que Dieu avait dit, Moïse le recevait parce qu'en fait, c'est dit, Moïse, il parlait face à face avec Dieu. C'est fou, hein? Mais il parlait, il était en contact étroit avec Dieu, Dieu lui parlait et il mémorisait tout et il écrivait tout. Et il a pu restituer tout ça au peuple en le relisant. Bon, il devait aussi avoir une sacrée mémoire, mais tout a été mis par écrit, et heureusement, sinon aujourd'hui on n'aurait rien. On n'aurait rien de tout ça. On ne connaîtrait pas le cœur de Dieu comme on le connaît aujourd'hui, parce que c'est tous ces écrits qui nous révèlent comment est le cœur de Dieu. Hein? Donc tout ça, ça a été écrit, mis sur, je ne vais pas dire sur papier, sur le papier de l'époque, par Moïse, sur des parchemins, sur... Je ne suis pas un historien chevronné, mais il y en a qui le savent mieux que moi, mais peut-être sur des parchemins, des papyrus, enfin c'était ce qu'ils avaient à l'époque pour écrire, pour garder des traces écrites, mais c'est sûr que tout ça, ça a été mis par écrit par Moïse. Et donc, comment s'imaginer que Dieu se contente d'un à peu près? Non. Pensez-vous que Dieu ait changé? Qu'aujourd'hui, bon, allez, va comme je te pousse, vas-y, c'est pas grave. Ben non, hein. Non. Dieu aime toujours l'ordre. Dieu aime les détails, de toute façon on le verra dans la suite, hein. Enfin, j'espère qu'on y arrivera aujourd'hui. D'ailleurs, l'apôtre Paul, n'a-t-il pas utilisé les mots « Notre Dieu est un Dieu d'ordre » ? On va parcourir ces versets, parce que ça va nous montrer qu'en fait, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ça se recoupe. Hein. Alors on va regarder, Dieu aime l'ordre. Dans 1 Corinthiens 12, 27, il est écrit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie par excellence. Voyez, le Seigneur, Dieu avait établi autour du tabernacle hein, les tribus dans un certain ordre, et dans l'Église, il a aussi établi un ordre. Et nous devons de le suivre. Et voyez, il y a des églises où, dont des miracles, il est mis complètement en avant d'une façon démesurée, désordonnée, et c'est le bazar. C'est important, les miracles. Mais ce n'est pas ce qui vient en premier. En premier, c'est les apôtres qui annoncent l'Évangile, qui annoncent la parole de Dieu. C'est le premier ministère qui a été disposé. Alors, on ne va pas s'étaler là-dessus, hein, parce que ce n'est pas l'objet de ce matin, mais c'était juste pour montrer que, aujourd'hui encore, Dieu aime l'ordre. Et dans l'Église, il y a un ordre à respecter. Et une Église où c'est le bazar, ça ne reflète pas la présence du Seigneur. Ce n'est pas à son image. Ce qui est à l'image de Dieu, c'est ce qui lui ressemble, c'est là où il y a de l'ordre. Mais ce n'est pas le seul endroit où Dieu a exprimé de l'ordre. Il a donné aussi des directives dans la famille. J'ai juste choisi trois endroits où on retrouve ce même Dieu d'ordre. Dans l'Église, dans la famille et dans le couple. Et on va juste parcourir rapidement ces versets. L'ordre dans la famille, Éphésiens 6, 1. Super, t'es une pro, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mais il n'y en a pas que pour les enfants, hein. Il y en a pour les pères aussi. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Voilà l'ordre dans la famille. Voilà comment ça doit tourner. Et voilà comment ça ne tourne pas dans notre société. On le voit, hein ? Ben oui. Aujourd'hui, on n'obéit plus. On n'obéit plus aux parents. Les parents démissionnés. Alors, je parle d'une... Il y a encore des cas particuliers, heureusement. Mais dans l'ensemble, les parents ont démissionné. Ils ont confié l'éducation de leurs enfants, la garde de leurs enfants, aux nounous modernes, numériques, que sont les écrans. Comme ça, les enfants, ils sont sages. Ils laissent les parents tranquilles. Mais est-ce que les enfants obéissent? Ben non. C'est pas la bonne éducation, c'est pas la bonne nounou. Aujourd'hui, on parle surtout des droits des enfants. On ne parle plus des devoirs des enfants. Et nous, chrétiens, nous le voyons. Mais quand on entend les gens du monde qui parlent de notre société, qu'est-ce qu'ils disent? Aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Aujourd'hui, c'est le bazar. Ben ouais. Les grands psychologues qui en savent plus que nous et plus que la Bible, ils ont décrété que corriger un enfant, c'était pas bon. Ben oui. Et ça donne la société d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui. Et les enseignants, ils le voient dans les classes. C'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Parce que les enfants n'ont pas les notions de respect, d'obéissance, les distances à respecter avec un adulte, avec quelqu'un qui est revêtu de l'autorité. Ça a disparu. L'ordre divin a été bafoué. Et on le voit aujourd'hui, ça ne tourne plus rond. Alors on essaye de remplacer les choses, mais on ne remplacera jamais l'ordre que Dieu avait voulu instaurer. La seule manière de restaurer une société qui fonctionne bien, c'est l'humiliation et la repentance, et de revenir à l'ordre que Dieu avait défini pour que ça fonctionne. Tout à l'heure, je vous ai dit que le peuple dans le désert n'aurait pas survécu 40 ans s'il n'avait pas suivi l'ordre de Dieu. Et aujourd'hui, notre société est en train d'aller dans le mur, à la dérive, parce qu'elle a arrêté de suivre la voie de Dieu. Toutes les racines chrétiennes sont en train d'être arrachées. Tout est en train d'être retiré. Et on s'étonne que ça ne tourne plus rond. L'ordre de Dieu n'est plus du tout respecté. On va continuer avec l'ordre dans le couple. Je vous l'ai dit, hein, l'église, la famille, le couple, c'est trois colonnes. L'ordre dans le couple. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. On ne s'arrête pas là. Hein. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Voilà l'ordre dans le couple. Un couple qui ne fonctionne pas de cette manière-là ne fonctionne pas selon ce que Dieu a voulu. Et un mari qui ne prendrait que la première moitié, en ignorant la deuxième, en exigeant l'obéissance en toutes choses envers de son épouse envers lui, il oublie le deuxième côté, le deuxième volet, qui est là aussi qu'il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié. Jésus s'est sacrifié pour son Église. C'est pas l'amour unidirectionnel, l'obéissance unidirectionnelle. Ça va dans les deux sens. C'est une soumission mutuelle dans l'amour. Et un couple qui fonctionne de cette manière est un couple qui a de l'avenir. Alors si ce n'est pas le cas, il y a moyen de changer. Dieu fait grâce. Mais on a besoin d'avoir en tête et dans le cœur, dans les fibres, cet objectif à atteindre. Si je veux que mon couple tienne la route, il doit fonctionner selon l'ordre divin. On pourrait s'étaler dessus, mais ce n'est pas le but de ce matin. Je veux juste qu'on parcoure différents aspects qui ressortent du livre des Nombres. On va continuer. parce que là, on a juste vu que Dieu est un Dieu d'ordre. On va continuer. Dieu décide, ou c'est Dieu qui doit décider. Dieu est le décideur. Dieu doit être le leader de notre vie. Et on va regarder comment ça se passait au temps des Israéliens. Nombre 9, 15. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Je continue. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée, tenez-vous bien, s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle deux jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Vous vous rendez compte? Ça veut dire quelquefois, ils établissaient le campement pour une journée. Et il devait tout redéménager et on se mettait en route. Vous vous rendez compte? Vous avez vu le nombre de personnes installées. Le tabernacle à remettre en place. Toutes les couvertures, tout ce qui a été mis, on retire, on installe le voile, on monte le tabernacle. La nuit, elle est là. On a tout monté, on est content, on installe toutes les... autour du tabernacle. Le lendemain matin, hop, la nuée se lève. Allez, on redémonte tout, on repart. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai été étonné de voir, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, ils partaient sur l'ordre de l'Éternel, ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Ils ont murmuré plein de fois dans le désert. Et visiblement, il n'y a personne qui bronchait. Quand la nuée se levait, ou la flamme se levait, tout le monde démontait le camp et tout le monde partait. Je n'ai pas trouvé de traces de contestation. Nous, on aurait peut-être contesté. Tu te rends pas compte du boulot? Faut tout ranger, tout refaire les bagages et on repart. Mais là, visiblement, personne ne contestait. Ils reconnaissaient l'autorité de Dieu dans leur voyage. Et nous, dans notre vie. Est-ce que c'est Dieu qui décide? Est-ce que c'est Dieu qui conduit ma vie? Est-ce que je suis enclin à me laisser conduire dans tous les domaines de ma vie par mon Dieu, le Dieu que j'adore? Si jamais il me dit de partir, est-ce que je suis prêt à partir? S'il me dit de m'établir quelque part, est-ce que je suis d'accord? Est-ce que j'accepte? Est-ce que dans tous les... C'est pas forcément, faut pas se dire forcément un voyage physique, mais dans tous les domaines, dans mon cœur, est-ce que c'est lui qui dirige? Est-ce qu'il dirige ma volonté? Est-ce qu'il dirige mes pensées? Est-ce qu'il dirige mon temps? Est-ce qu'il dirige mes loisirs? Est-ce qu'il dirige tout? Dieu veut décider. Et quelque part, si on lui a donné notre vie, alors on lui a donné. Elle ne nous appartient plus. C'est lui qui doit pouvoir en faire ce qu'il veut. C'est lui qui doit pouvoir décider. Et c'est ce qui caractérise Dieu. Il veut conduire. On lui a donné le volant. Alors, il faut le laisser conduire. C'est lui qui doit diriger complètement notre vie. Donc Dieu, c'est lui qui décidait du cheminement du peuple. Et à la fin du livre des Nombres, on ne va pas lire parce que c'est trop long, mais je vous invite à aller voir, on voit le récapitulatif de toutes les étapes qu'ils ont vécues jusqu'à l'arrivée dans la terre promise. Moïse avait tout noté, tout le périple. Tout est écrit. On voit où ils ont campé. On va continuer. Ça va. Vous savez, c'est Dieu qui décide. Donc, Dieu est un Dieu d'ordre. Il veut décider de tout dans notre vie. Maintenant, on va voir qu'il sait compter. Vous le saviez peut-être déjà, on en a déjà parlé. Ah oui, non, franchement, il sait compter. Et en plus de savoir compter, il aime la précision. On va regarder ça de plus près. Mais je vous en parle déjà souvent quand je suis contemplatif devant la création du Seigneur. J'aime énormément regarder comment les choses dans la nature fonctionnent, comment notre corps fonctionne. Tous les différents systèmes à l'intérieur de notre corps, le système, enfin on l'appareil, soit le système ou l'appareil respiratoire, l'appareil digestif, l'appareil reproducteur, tout ce qui est là, le système immunitaire. Mais quand on se penche sur le fonctionnement de tout ça, mais c'est phénoménal comment ça fonctionne. C'est merveilleux de voir la précision avec laquelle Dieu a tout créé, comment il a disposé les choses à l'intérieur. Et ça, c'est que notre corps. Si on regarde les animaux, la nature, la verdure, la photosynthèse, l'air, l'oxygène, comment tout ça fonctionne, j'en ai déjà parlé, mais je suis émerveillé de voir comment tout ça, ça marche. Et si on regarde l'infiniment grand, la lune, le système solaire, les étoiles, les galaxies, mais c'est merveilleux comment tout ça, ça tourne, toute la gravitation, c'est merveilleux. Comment ne pas imaginer que notre Dieu, il aime l'ordre? Comment ne pas comprendre que c'est un ingénieur, c'est un mathématicien, c'est un génie? Notre Dieu créateur, c'est un génie et il aime les choses avec une précision énorme. Et ce que nous, on voit, ce n'est qu'une toute petite partie. Et on va regarder comment ça se voit dans le livre des Nombres, combien il aime la précision. Voilà, très bien. Nombre 3:39. Bon, là, j'ai commencé à 3:40. Oui, bon, c'est pas grave. Tous les Lévites, dont Moïse et Aaron, firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, selon leur famille. Tous les mâles, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent de 22 000. L'Éternel dit à Moïse, « Fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, et compte-les d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. » Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Tous les premiers-nés dont on fit le dénombrement, en comptant les noms, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent de 22 273. Ça, c'est le nombre de premiers-nés parmi les enfants d'Israël, c'est-à-dire dans les 11 tribus. Juste au début, on a le total de tous les premiers-nés de la tribu de Lévi, la 12e tribu qui étaient affectés aux fonctions du sacerdoce, qui avaient un statut spécial. Eux, ils étaient au nombre de 22 000. Donc on retient, j'ai fait un graphique. La diapo suivante. Vas-y Agnès. Voilà. Ça parle mieux qu'un long discours, un graphique. Voilà. À gauche, les enfants d'Israël, tous les premiers-nés, 22 273. C'est à l'échelle. Vous voyez, les 273, c'est la toute petite ligne rouge. Et les 22 000, c'est l'histogramme en jaune. À droite, les Lévites, 22 000 premiers-nés. On se dirait, franchement, hein, 273 devant 22 000. C'est pas grand-chose. Hein, ça fait 1,2%. Laisse tomber. Ben non. Chaque premier-né compte. Chaque personne compte aux yeux de Dieu. Et il a fallu, Dieu l'a demandé à Moïse et à Aaron, vous allez racheter les 273 premiers-nés qui sont en excédence chez les enfants d'Israël. Vous savez pourquoi ? Les premiers-nés avaient leur importance depuis la sortie d'Égypte. Vous savez, hein, tous les premiers-nés égyptiens sont morts et Dieu a racheté par le sang sur les linteaux et les montants des portes les premiers-nés des enfants d'Israël. C'est de là que ça vient, cette importance des premiers-nés. Et comme la tribu de Lévi avait un statut particulier, c'était elle qui était dédiée au service de Dieu dans le tabernacle, Dieu a décidé qu'en fait, tous les premiers-nés des autres tribus seraient rachetés par les premiers-nés de la tribu de Lévi. Seulement, il y avait 273 premiers-nés en plus dans les autres tribus d'Israël. Et cela, donc, n'était pas racheté par superposition avec les 22 000 premiers-nés de la tribu de Lévi. Vous me suivez? Je suis assez clair. Donc, il y avait ces 273 qui n'étaient pas rachetés par les 22 000 premiers-nés de la tribu de Lévi. Donc, il fallait qu'il y ait quelque chose de plus pour eux. Parce que ces 22 000 premiers-nés-là étaient rachetés, et les 22 000 de la tribu de Lévi étaient pris à la place des 22 000 de la tribu, des tribus d'Israël. Mais les 273 en trop, eux, n'étaient pas rachetés par cette superposition des 22 000 de la tribu de Lévi. Donc, Dieu a demandé à ce que ces 273-là soient rachetés. Et Moïse et Aaron ont dû racheter ces enfants-là. Et Dieu a donné ces directives, on ne va pas tout parcourir, mais je vous invite à aller voir, hein. C'est dans Nombre 3, 39, vous avez les références. Voyez la précision de Dieu. Ces 273 avaient besoin d'être rachetés. Parce qu'ils n'avaient pas leurs homologues dans la tribu de Lévi. Ils comptaient. Il n'était pas question de les laisser passer à la trappe. Ils avaient leur importance. Dieu est précis. Comment pouvons-nous aussi nous dire « Oh moi, je ne compte pas aux yeux du Seigneur. Moi, je suis méprisable. Le Seigneur, il ne fait pas attention à moi. » Comment est-ce qu'on peut se dire ça quand on prend connaissance que ces 273, ils ont dû être rachetés parce qu'ils avaient leur importance. Dieu ne les a pas oubliés. Et chacun de nous, on compte de la même manière. Jésus est mort aussi pour chacun de nous. Vous vous rendez compte ? Tout le monde compte. Il n'y a personne qui passe à la trappe. Il n'y a personne qui est insignifiant. Quel que soit ton statut social, quelles que soient les études que tu as faites, quel que soit ton métier, quel que soit ton âge, tu comptes aux yeux de Dieu. Personne n'est oublié. Dieu fait attention à chacun d'entre nous. Est-ce qu'on en est conscient? Moi, je l'avais déjà lu, hein, cette histoire des 22 000, mais en fait, on parcourt ces nombres et puis on s'en préoccupe pas. Mais quand j'ai réfléchi à la question, j'ai relu. Je me suis dit, mais bah ouais, c'est ça. En fait, c'est parce qu'il y en a 273 en trop. Et eux ne sont pas rachetés par les premiers-nés des Lévites. Et ils sont importants. Et Dieu a voulu qu'on leur accorde l'importance qu'ils méritaient. Et il a fallu qu'ils soient rachetés comme les autres. Même si c'était un tout petit pourcentage. Et ne te dis pas que tu es insignifiant. Que Dieu t'ignore. Que tu ne comptes pas. Tu n'es pas noyé dans la masse. Parce que sinon, les 273, ils auraient été noyés dans la masse aussi et Dieu n'aurait jamais demandé de les racheter. Tu n'es pas noyé dans la masse. Est-ce qu'on en est convaincu? Tu es important. Tout le monde compte avec notre Dieu. On va continuer, on peut. Ah, j'ai pas mis le titre. Ce que j'ai écrit, ce qui ressort, c'est que Dieu se marie avec nous. Quelque part, on est l'Église, on est fiancé à Christ. Il y a une alliance profonde entre Dieu et nous. Et on va la regarder au travers du livre des Nombres, dans la manière dont Dieu donne les directives et comment Moïse, Aaron et Dieu interagissent ensemble. Dans le décompte qu'on vient de voir avec les 22 000, est-ce que vous pensez que Dieu n'était pas déjà au courant de ces 273? Si, il était au courant. Et pourtant, il a demandé à Moïse de compter. Et quand Moïse a compté, Moïse a obéi à Dieu. Hein. Dieu lui a dit, allez, vas-y, tu vas compter. Pourtant, c'était du boulot, hein. 22 000. Et deux fois 22 000. Enfin, une fois 22 273 et une fois 22 000. Ça fait du boulot. Hein. Il a compté tout ça. Et quand il a compté, il est allé vers Dieu. Et il lui a dit, voilà, j'ai compté. 22 273. J'ai compté. 22 000. Dieu a pris acte de ce décompte. Il l'a pris. Il s'est appuyé sur ce décompte pour dire à Moïse, maintenant Moïse, que tu as compté, tu vois, ces 273, il faut qu'ils soient rachetés. Voyez cette alliance. Dieu aurait pu faire sans Moïse, hein. Puisqu'il est capable de compter les cheveux de notre tête. Il était au courant des 273. Mais il a choisi d'utiliser Moïse. Moïse a dû utiliser son intelligence pour compter. Parce que compter jusqu'à 22 273, il faut quand même avoir appris à compter. Et pensez-vous que Dieu ne s'allie pas à nous dans le service qu'il nous donne à faire pour qu'on utilise nous aussi notre intelligence à son service. Parce qu'il pourrait très bien travailler sans nous. Mais de la même manière qu'il a choisi de demander à Moïse de compter, il nous demande à nous aussi d'exécuter des tâches, d'exécuter des missions. Et dans ces missions, il va nous demander d'utiliser notre jugeote, notre bon sens, notre intelligence. On est d'accord ? Et on va regarder comment on le voit dans l'ordre de l'Église. Dans la lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 14, 18, l'apôtre Paul écrira « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Le rôle du bon sens et de l'intelligence dans l'enseignement de l'Église. Ça veut dire que ce n'est pas l'illumination qui conduit l'Église. On peut être illuminé par l'Esprit de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, mais le bon sens, l'ordre, Dieu les utilise. Voyez comment il y a cette alliance entre les facultés qu'on doit mettre au service du Seigneur et les ordres de Dieu. Dieu a choisi de nous utiliser et d'utiliser aussi nos facultés dans la conduite, dans le service qu'il nous demande d'accomplir pour lui. Bien sûr, on ne doit pas en faire à notre tête, hein. Il faut qu'on reste soumis à Dieu. On l'a vu, hein, c'est Dieu qui décide. Mais dans cette décision, Dieu va utiliser notre bon sens. Dieu va utiliser notre intelligence, comme il a utilisé l'intelligence de Moïse, comme il a utilisé l'intelligence de Paul. Qui préfère, au lieu de parler en langue dans l'Église, parler avec son intelligence pour que ce soit intelligible et que tout le monde comprenne? D'ailleurs, il dira plus loin que si quelqu'un parle en langue, qu'il prie pour avoir l'interprétation. Sinon, il vaut mieux se taire. Parce que on a besoin que les choses qui sont dites, elles soient compréhensibles. Il y a la comparaison, hein. Si le son qui sort de la trompette n'est pas clair, si personne ne comprend, comment l'armée ira au combat ? Les choses doivent être bien claires, doivent être ordonnées et doivent être compréhensibles. Il en est de même. Dans 1 Corinthiens 14, 29, l'apôtre Paul continue en disant « Pour ce qui est des prophéties, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. » Juger, ça fait appel au bon sens. En s'appuyant sur la parole de Dieu. Mais il y a cette alliance profonde entre ce que le Saint-Esprit dit et le bon sens, l'intelligence que Dieu nous a donnée. On ne peut pas prendre l'un sans l'autre, et on ne peut pas prendre l'autre sans l'un. Il y a une alliance profonde. Vous savez, moi j'aime bien comparer ça avec un mariage. Dans un couple, il y a une unité telle que l'un ne peut pas faire sans l'autre. Et combien de fois je le dis avec Isabelle ? À 2, c'est toujours mieux. Mais quelque part, Dieu, il veut s'allier à nous. Il veut qu'on porte sa volonté en nous. Il veut une énorme unité intime avec nous. Il veut faire la marche avec nous de notre vie. Il s'intéresse à ce qu'on fait dans notre vie et il veut vraiment être profondément uni avec nous dans notre vie et dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait dans l'Église, dans notre travail, dans notre famille, dans nos loisirs, dans notre bricolage, dans tout ce qu'on fait. Il veut être présent et profondément uni à nous dans tous les domaines de notre vie. Il veut remplir nos pensées. Il veut remplir notre bouche. Il veut remplir notre cœur. Il veut qu'on déborde de lui. Il aurait pu faire sans nous, hein. Mais dans l'amour extrême qu'il a pour ses créatures, il a choisi de venir habiter dans les vases de terre que nous sommes et de s'allier par son esprit qui est venu habiter dans nos cœurs, de s'allier profondément avec nous pour faire ce bout de chemin de notre vie avec nous jusqu'à notre mort. Mais c'est ça la vie chrétienne. C'est une vie dans une étroite relation, communion avec Dieu, où il est en nous et c'est lui qui vit en nous, dans notre cœur. Et ça doit être une relation profonde, ben, comme celle qu'on voyait entre Moïse et Dieu. Dieu avait besoin de Moïse et Moïse avait besoin de Dieu. Et ils parlaient face à face. Est-ce que dans les moments intimes qu'on a avec le Seigneur dans notre chambre, est-ce qu'on a vraiment cette impression d'être en contact étroit avec Dieu? Est-ce qu'on vit ces moments intimes avec lui où il nous parle, il touche notre cœur de sa présence et ça nous transforme, ça nous illumine? Mais Dieu veut ces moments-là. Il en a soif et nous, notre âme, elle en a soif. Je dois m'arrêter à midi. J'en ai encore, mais il y aura une suite dans ce cas-là, parce que sinon je vais trop déborder. Voilà, bon, c'est une partie de ce que j'avais sur le cœur de vous dire. Mais voyez, dans ce livre des Nombres, on sent le cœur de Dieu qui parle. Le caractère de Dieu qui s'adresse à nous et qui montre ce qu'il a à l'intérieur. Tout ce qu'il demande nous montre sa nature. Et ben, il faut qu'on avance dans cette connaissance étroite, dans ce contact étroit avec lui. Je vais m'arrêter là, je vais prier. Et que vraiment on cherche cette présence étroite de Dieu et qu'on lui demande de nous remplir de sa présence. Seigneur, c'est toi notre Dieu. Ta parole est merveilleuse. Elle nous montre le cœur de Dieu. Et combien c'est vrai, Seigneur. Merci pour ton amour pour nous. Merci parce que chacun de nous compte. Tu n'oublies personne. Personne n'est insignifiant. Fais-nous la grâce de te laisser tout décider dans notre vie. Donne dans notre cœur cette obéissance profonde à ta volonté. Fais-nous la grâce de chercher ta volonté, de rechercher ta présence. Touche-nous de ta présence, Seigneur. Amen.